Aborder les sciences autrement à la découverte des médiations. Une série estivale des bénévoles du Labo des Savoirs, réalisée par Elia Técher et Charlotte Beaune, avec la participation de Cécile, Jérémy, Célie et Julie. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet. Épisode 2, l'art et la manière.
Que se passe-t-il lorsqu'on décide d'accorder volontairement l'art avec la science ? C'est précisément ce dont nous allons discuter aujourd'hui dans le deuxième épisode de notre hors-série estivale de l'été. Pour ce faire, Charlotte nous a déniché les coulisses de chercheurs derrière le projet STRAD, mêlant art et robotique.
Les collaborations entre artistes et chercheurs sont fréquentes et permettent de questionner le rapport entre les disciplines. Et souvent, elles permettent de répondre à des questions que vous ne vous étiez peut-être jamais posées. Par exemple, est-ce qu'on peut faire du street art avec des robots ? À Strasbourg et Grenoble, des chercheurs et des chercheuses en robotique ont testé pour vous. Pour le projet STRAD, Street Art Drone, on discute avec Ethan Nidam et Jacques Gangloff. Jacques, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet ?
J'avais déposé un projet à l'interface entre la robotique et l'art, donc Street Art Drone, en collaboration avec, parce que le principe de ces projets, c'est la collaboration, hein, donc entre plusieurs labos, en général français. Et là où ça devient atypique, c'est que dans le consortium, on avait une association qui est complètement exotique, là, pour le coup. Et cette association qui s'appelle Space Junk, qui est dirigée par Jérôme Katz. Et donc, l'ambition de ce projet, c'était de réaliser une fresque de street art de grande dimension, de façon autonome, pas autonome du point de vue artistique, hein, évidemment, autonome du point de vue de la réalisation. Celui qui est aux manettes, c'est toujours un artiste, mais on lui offre un autre outil, quelque chose qui lui permet de faire une œuvre d'art qu'il ne serait pas capable de faire à la main. On avait développé un concept un peu original de manipulateur aérien, donc ce n'est pas tout à fait un drone, hein, c'est des drones suspendus par une liaison élastique. Et on avait obtenu de très bons résultats en termes d'autonomie et de précision. Et la suite logique, c'était de trouver une application sympa, parce qu'on était resté à la preuve de concept en laboratoire. On essaye d'imaginer des applications de grande dimension et qui nécessitent de la précision. Mais je pense que celui qui a créé le lien, c'est le directeur du Gipsa Lab, qui fait aussi partie du consortium, Nicolas Marchand, qui connaissait personnellement le directeur de Space Junk et qui a dit « Ouais, mais non, mais là, c'est tellement atypique et puis c'est tellement pertinent par rapport aussi au drone qu'on avait. » Et donc cette application-là s'est imposée naturellement.
Ethan, tu étais doctorant au sein de ce projet de recherche. Est-ce que tu avais déjà des appétences artistiques ou alors tu connaissais déjà le monde du street art ?
Moi, je dessine beaucoup et je dessinais déjà beaucoup avant. Du coup, c'est ça qui m'avait beaucoup attiré d'ailleurs dans le projet aussi. Je suis arrivé pour travailler dessus. Mais par contre, quand j'ai vu l'application voulue, vu que j'étais déjà familier avec le domaine artistique, forcément, c'est un projet qui m'a parlé. Je trouvais ça intéressant. J'ai pas fait de street art à la bombe, même si en vrai j'aimerais bien essayer un jour. Enfin, du coup, moi j'avais surtout mon lien avec l'art qui a fait que je voulais rejoindre le projet à la base aussi. Bon, ça et le fait que j'avais fait une formation d'ingénieur à côté, quoi.
Comment s'est passé ce rapprochement entre vos compétences techniques et un projet de fresque murale ? Est-ce que c'est compliqué d'obtenir à la fois une performance artistique et des résultats scientifiques ?
Ça, c'était pas forcé, hein, il y avait aussi une volonté. On voyait bien que ça pouvait être rigolo comme application, motivant, et en même temps cocher les cases scientifiques, parce que c'est ça vraiment la difficulté. Hein. C'est un exercice assez délicat, on va dire, de concilier tous ces objectifs en même temps, qui sont tous assez ambitieux, mais là, je dois dire... Je pense que Ethan était le casting parfait pour ce projet, parce qu'il a cette sensibilité artistique, je pense, qui a été un moteur aussi pour lui. Et on a pu valider le volet artistique. Je pense qu'on n'a pas à rougir du résultat, là. Ça tient tout à fait la route et c'est conforme à ce qu'on attendait. Et c'est une première mondiale, hein. Et puis, du point de vue des publications scientifiques, on a aussi validé. D'ailleurs, il y en a encore une sur le feu, hein. Là aussi, on a validé les choses. Donc, ouais, ça, c'est une alchimie qui a pris, là.
En général, les projets art et science viennent questionner le rapport entre la science et les arts et la co-création. Est-ce des réflexions que vous avez eues avec l'artiste notamment?
En fait, là, on a beaucoup interagi avec Jérôme Katz avant que l'artiste ne soit sélectionné. Enfin, lui, c'est pas un artiste. On peut le considérer comme un manager d'artiste. Donc, il connaît les différents styles de street art. Et c'est lui qui nous disait aussi qu'est-ce qui était faisable techniquement et qu'est-ce qui ne l'était pas. Et où étaient les lignes rouges qu'on ne pouvait pas franchir, les choses qu'on ne pouvait pas dégrader, par exemple, parce que on avait des soucis techniques, etc. On était parti initialement sur un truc vraiment trop ambitieux. On aurait voulu qu'il fasse de la peinture à la bombe. On s'est rendu compte que la peinture à la bombe, les techniques des street artistes sont extrêmement élaborées, sont basées sur une modulation extrêmement fine de la pression sur... le cap, là, la valve de la bombe. Donc ça, pour le faire de façon automatisée, régulée, contrôlée par ordinateur, c'est pas évident du tout. Il joue sur l'inclinaison de la bombe pour faire des dégradés, avec des techniques qu'on ne soupçonnait même pas. Et ça, on s'est vite rendu compte que si on voulait le faire avec notre robot, ça allait être très très compliqué. Donc on a trouvé un compromis en plus, c'est marrant parce que ce compromis, il cochait une autre case. Parce que nous, il y a la partie artistique, mais globalement, le fil rouge un peu de mon travail de recherche et puis des collègues qui travaillent avec moi depuis un certain temps, c'est la frugalité. On aime bien développer une robotique qui consomme moins d'énergie, qui consomme moins de matières premières, qui soit réparable, qui soit plus accessible et surtout qui ne soit pas polluante. Et le concept de peinture à la bombe, on a découvert qu'il est extrêmement polluant. En fait, elles sont jetables. Donc, alors on a cherché des solutions re-remplissables, donc ce n'est pas satisfaisant. Donc très rapidement, on s'est dit, on va peut-être la technique du marqueur, marqueur rechargeable avec de la peinture tout à fait classique, hein, pourrait cocher absolument toutes les cases, y compris la case de la frugalité et de l'absence de déchets, quoi. Et c'est ça qui nous a finalement naturellement guidé vers le pointillisme. Et c'est là où le carnet d'adresses de Jérôme nous a aidés, parce qu'il connaissait deux artistes, street artistes pointillistes. Il a commencé par contacter une artiste pointilliste. Pour elle, il n'était pas question qu'un robot, enfin, marier robotique et art, c'était complètement contre nature. Mais bon, il ne s'est pas arrêté là, il les connaît, hein, donc c'est un manager d'artistes. Et il en avait un autre en réserve, qui lui est un vrai geek, on peut dire, qui est Can DMV, enfin ça c'est son nom d'artiste, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler, et qui lui travaille en fait avec exactement les mêmes outils que nous, quoi. Et il a un process de travail qui commence par digitaliser une œuvre qu'il a faite, évidemment, mais en utilisant un langage informatique qui est Python. Donc le gars, il code en Python, et ce qui sort de son programme, qu'il a codé avec ses petites mains, c'est un fichier JSON. JSON, c'est ce genre de fichier que nous, on utilise aussi, hein. C'est un format texte qui a une certaine structure et qui est très pratique justement pour coder des informations comme les coordonnées des points ou la couleur, quoi. Et donc, on parlait vraiment le même langage. Et lui, tout au contraire de sa collègue, n'était pas du tout allergique, au contraire, à marier technologie et art. Et d'ailleurs, c'est même sa marque de fabrique. Et notamment, il était très versé dans la démoscène. Donc, typiquement, ils font des démos, qui sont des programmes. Donc, des trucs multimédia avec de la musique qui est synchronisée avec des images. Et il code ça, souvent en assembleur, à la dure, sur des machines 8 bits des années 80. Donc ça, c'est son background, quoi. C'est de là qu'il vient, c'est sa culture, son fond, quoi, et artistique. Et ça collait parfaitement avec le projet, quoi. Là, on parlait strictement, il y a eu aucun quiproquo, enfin, il comprenait parfaitement ce qu'on voulait. Il a aussi, évidemment, ce côté artistique, et il savait jusqu'à quel point il ne devait pas dégrader son œuvre, sinon ça ressemble plus à rien. Donc il nous a changé un peu le style, passé d'un style cartoon à un style crayonné, plutôt. Et ça l'a fait parfaitement, et ça rentrait dans notre cahier des charges d'un nombre de points imprimés, donc 35 000, qui était réalisable durant un temps raisonnable.
Ethan, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à l'interface entre l'art et les sciences ?
C'est des projets qui, je trouve, parlent aux gens, qui vont intéresser rapidement un public plus large aussi. Et du coup, bah, si jamais j'avais l'occasion de rebosser sur un projet similaire ou qui mêle plusieurs disciplines, ça m'intéresserait, ouais.
Merci Charlotte pour cette virée technologique et artistique. Si vous êtes curieux du résultat de ce projet, vous pouvez retrouver une photo de la fresque murale sur le site du Street Art Fest, dont le lien est dans la description. Le projet Strad fait partie du champ de la recherche-création. Mais c'est quoi au juste ? D'après l'article de revue de Jérôme Gliesenstein, l'utilisation du terme recherche-création ne date pas d'hier. Originaire du Canada, elle a fini par arriver en France avec quelques variations terminologiques telles que la recherche-action, la recherche-intervention ou encore la création-recherche. Dans le monde anglo-saxon, on préférera parler de practice-based research, voire de performative research. De manière générale, l'idée reste la même. Transformer une pensée en acte. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada définit ainsi la recherche-création comme une approche de recherche combinant des pratiques de création et de recherche universitaire et favorisant la production de connaissances et l'innovation grâce à l'expression artistique, à l'analyse scientifique et à l'expérimentation. D'autres éléments de définition sont proposés par le Fonds québécois de recherche, société et culture. La recherche-création désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création considérée comme un processus continu, en partant du principe qu'il n'est pas de recherche-création sans alternance entre l'œuvre et le processus de création qui la rend possible. Le FQRSC souligne la nécessité d'une problématisation de la pratique artistique en vue de produire de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques. La rigueur scientifique et la démarche artistique ne font alors plus qu'un. Nous venons d'apprendre à envisager l'art par le prisme de la robotique. La science est ici synonyme de technologie. Mais qu'en est-il dans le cas où la science devient l'art ? On écoute ça tout de suite.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Paul Royot, artiste plasticien lyonnais qui illustre des concepts scientifiques à travers l'art géométrique et le cubisme. Entre art et science, le mélange intrigue, car il est plutôt hors du commun. Et c'est justement là un vrai parti pris qui fait son originalité. On en parle tout de suite. Donc Paul, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours artistique ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, j'ai commencé l'illustration pendant le confinement. Comme beaucoup de gens, on était chez nous un peu à tourner en rond. J'ai ma copine qui est illustratrice et tatoueuse et qui a toujours plein de crayons chez elle. Et qui m'a dit, bah, essaye de dessiner un truc comme ça pour rigoler. Comme je suis passionné de science depuis l'enfance, et bah, je me suis mis à dessiner des planètes, c'est parti de là. Et ça fait bientôt 6 ans maintenant que je dessine.
Donc vous avez commencé à dessiner déjà adulte, c'est-à-dire qu'enfant, ça ne vous interpellait pas déjà ?
J'ai toujours été confronté dans ma famille à des tableaux, des choses comme ça, mais je n'avais jamais essayé. Je n'avais jamais tenté l'expérience. Non, je n'avais jamais dessiné à part la seule chose pour laquelle je tenais un stylo, c'était pour écrire. Vraiment, si j'avais dû dessiner quelque chose, ça aurait été un bonhomme bâton, quoi, comme au CP, mais c'est tout.
Et du coup, c'est comme ça que vous est venue l'idée de mettre en lumière des concepts scientifiques, c'est de croiser vos deux passions ?
Ouais, exactement. J'ai commencé en dessinant comme je disais, dessiner des planètes, etc. Et je me suis dit, on pourrait même étendre ça, à une théorie scientifique. Par exemple, la dualité onde-corpuscule, le fait que la lumière se déplace à la fois comme une onde et comme une particule. comment on pourrait mettre ça en image. Et puis j'ai commencé à faire des ronds et des points d'une certaine forme, et je me suis dit, ouais, ça marche bien. Et allez, prochaine théorie, le rayonnement d'Hawking, j'en sais rien, juste comme ça.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre première œuvre et comment vous vous sentez par rapport à celle-ci aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Première œuvre, je l'ai encore, du coup, je l'ai gardée parce que sentimentale un peu. il y avait, comment dire, beaucoup de cubisme en fait, et c'est ça qui m'a donné l'envie ensuite de faire des planètes. Mais comme j'ai beaucoup été confronté au cubisme, entre guillemets, surtout chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de tableaux de cubisme. C'est peut-être inconscient, mais c'est ce que j'ai dessiné en premier. Et puis ça me rappelait plein de choses, l'univers, ça me rappelait une conversation avec un pote, ça me rappelait plein de trucs. Et du coup, je la garde un peu égoïstement pour me dire que, pour me rappeler que ah, bah, c'est ma première œuvre, donc j'aime bien.
Vous expliquez que ce qui déclenche une œuvre, c'est la volonté d'illustrer un concept scientifique ou une règle telle que l'infini, l'échelle, la gravitation, etc. Pouvez-vous nous expliquer ce votre processus créatif? Est-ce que vous recherchez volontairement des concepts à illustrer sur Internet en les lisant, ou est-ce qu'ils vous viennent spontanément?
Ça va plutôt être des concepts que j'ai déjà en tête, dont j'ai déjà entendu parler, que je connais. En tout cas, au début, mais c'est plus en cherchant des spécificités sur certains concepts. Par exemple, en ce moment, je travaille sur quelque chose sur la théorie des cordes, et c'est une horreur. Enfin, il faut bien commencer quelque part, et c'est hyper complexe. Mais du coup, en cherchant là-dedans, je découvre d'autres choses en plus aussi qui me donnent d'autres idées. Je ne sais rien, je cherche un truc sur la théorie des cordes et je tombe sur un tesseract ou sur un truc comme ça. Et du coup, je me dis, ça, je le mets de côté, ça sera un truc pour plus tard, etc. Et après, je me renseigne ou ça va être en travaillant avec des scientifiques. Du coup, j'ai déjà fait pas mal de présentations et ils me parlent de leurs concepts, etc. Vraiment, la source d'inspiration, elle va venir un peu partout comme ça. Donc, c'est soit je le connais déjà et maintenant, comme j'ai épuiser un peu tout ce que je savais, puisque je n'avais pas non plus tant de choses que ça. Mais bah, du coup, c'est en cherchant petit à petit que j'entends parler de quelque chose et je me dis « Ah, mais ça serait trop bien sur une feuille blanche. » Voilà.
Et du coup, la théorie des corps, c'est ce que vous avez trouvé pour l'instant de plus difficile à illustrer, ou il y a eu d'autres choses?
Ouais, j'ai même pas commencé l'illustration. Déjà, j'essaye d'appréhender les débuts du commencement, du prémisme, de ce que ça veut bien vouloir dire et... Donc, j'ai pas fait encore un coup de crayon là-dessus. J'essaie déjà de l'appréhender un petit peu assez bien pour après le valider sûrement en parlant avec quelqu'un dont c'est le domaine soit de recherche ou de travail. Et après, je me dirais, bon, bah, maintenant que j'ai à peu près compris le début de ce que ça peut être, je vais commencer à travailler sur l'illustration. Mais pas avant, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi.
Parlons un peu technique. Vous produisez vos œuvres tantôt à l'acrylique, tantôt à l'encre, souvent un mélange des deux, et parfois même simplement en crayon à papier. Dans tous les cas, c'est un travail précis, long, de pointillisme. Pourquoi ce choix? Et a-t-il été une évidence pour vous? Y a-t-il eu plusieurs essais avant de vous y résoudre?
Ça s'est fait assez naturellement, parce qu'en fait, justement, dans mes premières planètes, je voulais créer une sorte d'effet de dégradé, ce qui n'est pas possible en maintenant le stylo tout le temps sur la feuille, etc. Et le point, c'est venu vraiment par hasard. Je me suis dit que c'était la meilleure manière de gérer ce fameux dégradé, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Et sinon, non, bah, le matériel, il est... encre acrylique et compas et règles. Voilà, c'est vraiment 100% de mon matériel. Crayon gris pour faire les tracés que j'efface ensuite après. En fait, bah, ça se voit, je pense, sur mon travail, mais il n'y a que des ronds et des lignes droites. Donc, et à part des points, c'est tout. Donc, je peux vraiment faire que ça. Comme je disais tout à l'heure, sinon, à main levée, je sais vraiment... rien faire comme j'avais jamais dessiné, et il a fallu très vite me dire bon, bah, je voudrais faire des choses plus complexes, mais à main levée ce sera pas beau selon moi. Et du coup, je me suis dit bon, bah, une règle, un compas, et ça fait le taf très bien.
Et vous souhaitez rester complètement en autodidacte, ou un jour peut-être prendre des leçons pour essayer d'approfondir?
C'est une bonne question, je sais pas encore. J'y ai même pas pensé. Je suis en train de me poser la question de la couleur petit à petit. Donc, je ne suis même pas encore à me dire est-ce que je prendrai des cours, mais j'aimais bien le côté autodidacte, dans le sens où je n'ai pas été influencé par une école ou quelque chose comme ça. Moi, l'idée de dire ce que je fais est unique, parce qu'il y a plein de gens qui font de l'art avec de la science ou du cubisme et des choses comme ça. Mais j'aime bien me dire que ça sort vraiment 100% de ma tête, en fait. Et le danger avec des leçons, ce serait de rentrer un peu dans une case d'enseignement qui m'imposerait en fait une manière de réfléchir, là où aujourd'hui, je suis encore libre de faire exactement comme je veux. Il n'y a pas de règles, donc c'est trop cool.
Vos œuvres contiennent une forme de codage, comme par exemple l'usage d'un système que vous appelez le Morse circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment se traduit-il dans vos œuvres ?
Oui, bien sûr. En fait, j'aime bien tout ce qui va être cacher des messages, des systèmes de cryptage et tout. Je trouve ça toujours un peu marrant à faire. D'ailleurs, dans la plupart de mes œuvres, il y a aussi, en plus du thème abordé, des concepts scientifiques qui sont cachés dedans, souvent mathématiques, en plus du thème de l'œuvre. Et puis, du coup, je trouvais ça marrant de faire une sorte de dérivée du code Morse en le dessinant avec des ronds, enfin de manière circulaire, en fait, divisé radialement. Donc, en fait, un cercle est divisé en nombre de lettres que comporte un mot. Vous pouvez voir sur mon site, j'ai fait un onglet Morse circulaire. Vous pouvez taper dedans et ça vous génère le mot que vous tapez ou les mots que vous tapez. Et du coup, je les inclus dedans parce que ça fait des messages, mais cachés, parce que graphiquement, on voit juste des ronds divisés en forme un peu bizarre. Et donc maintenant, c'est plus un secret, donc tout le monde peut le lire parce qu'il y a le mode d'emploi et de lecture et tout. Mais j'en cache toujours d'autres dont je n'ai pas révélé le moyen de lecture. Mais ouais, ça s'inscrit dedans avec plein d'autres formes, etc. Et ça donne souvent une sorte de cafouille un peu bizarre, mais qui, au final, a beaucoup de sens. J'aime bien le paradoxe entre les deux. On dirait que c'est le bordel, mais en fait, non, c'est très rangé, d'une certaine manière.
Vous proposez une forme de concours pour remporter l'original de vos œuvres à celui ou celle qui trouvera le système de codage. Est-ce qu'en général, cela prend longtemps ou est-ce plutôt immédiat? Et est-ce que des spectateurs se prennent bien au jeu?
Ouais, les gens sont à fond. C'est clair. Bah, déjà... Ouais, j'aime bien faire ça, c'était pour les mettre en gage, créer une sorte d'adrénaline un peu marrant, un jeu concours. C'est déjà arrivé que des gens en trouvent d'ailleurs, donc ils ont gagné l'original. Mais j'aime bien parce que je le faisais beaucoup. En fait, l'idée est venue quand je le fais toujours, je suis toujours en lien avec la fac de sciences de Lyon 1. Et du coup, ils ont des rassemblements tous les ans avec les jeunes physiciens, surtout en physique des particules, etc. Et du coup, ils se mettent souvent devant un tableau donné, et ils essaient de chercher. Donc moi, j'ai pire qui bat à fond en me disant « ils vont trouver tout, ça, il y a 250 heures de boulot et tout ça », mais en même temps, c'est un peu l'enjeu. Mais ils me donnent plein d'idées, des trucs, mais c'est aussi ça, c'est des sources d'inspiration, parce qu'ils me sortent des mots avec 42 syllabes, je comprends rien du tout, mais du coup, je note, je me dis « c'est quoi ce truc, oh, trop bien, je vais chercher », et ils me donnent des trucs auxquels j'aurais même pas pensé, quoi. Donc, parfois, c'est arrivé deux fois que quelqu'un trouve. La plupart du temps, non, pas toujours. Après, il y en a qui sont très forts. Je mets des niveaux différents aussi selon le temps que j'ai passé à faire l'œuvre. Parce qu'une œuvre de 300 heures de boulot, je n'ai pas envie de la faire gagner avec juste un petit truc un peu facile, quoi. Mais les gens sont à fond. Et même j'étais à Grenoble à un salon, et même des gens qui n'étaient pas forcément scientifiques, ils regardaient tous les tableaux, ils me posaient 1000 questions, etc. Ils étaient... Non, c'était... J'aime bien, ça crée une... ça fait marrer les gens, ça crée de la discussion, une sorte de petite émulsion, c'est fun.
C'était pour quelles œuvres que du coup le codage a été trouvé ?
Alors, c'est une œuvre qui s'appelle, c'est un des, parce que je fais des séries parfois, donc la série Cosmic Trip, d'un système planétaire. Donc là, c'était le nom de l'œuvre en fait, mais en morse, parce que j'avais fait des bandes bleues. Et l'autre, c'était sur un tableau qui s'appelle Intrication Quantique 2, où il y avait un système dans l'intensité des points qui remplissaient chaque cercle, on pouvait y voir une série de une série de la suite de Fibonacci. Même 4 personnes ont trouvé, du coup j'ai fait une sorte de concours pour trouver qui allait l'emporter.
Donc Paul, vous avez été exposé à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et même à Paris. De manière générale, les arts intéressent, les sciences aussi. Avez-vous plutôt rencontré des interlocuteurs enthousiastes à cette idée ou empreints de doute dans votre parcours ?
Non, les gens en général sont toujours, au-delà d'être bienveillants, ils trouvent toujours que l'idée est chouette. Et c'est cool parce que du coup, ça amène à plein de discussions, d'explications. Et souvent, j'ai la réaction de « Oh, mais c'est génial !» et tout ça, c'est trop cool. Donc non, il y a un vrai enthousiasme par rapport à ça. Et j'ai même jamais eu de quelqu'un qui m'a dit « c'est nul comme idée » ou « Après, ça peut ne pas forcément intéresser les gens, mais... Ça, c'est normal. Mais en tout cas, toujours beaucoup de bienveillance. Et pour ceux qui sont en plus de bienveillants, ils me disent « c'est trop cool ». Donc, c'est plutôt agréable d'évoluer dans cette sphère-là, quoi, où les gens aiment votre travail, mais en plus trouvent que l'idée de le faire est sympa.
Votre exposition la plus récente se prénomme « Deux infinis ». Elle met en lumière le contraste entre le microscopique, ce qu'on ne voit pas, et le macroscopique, le gigantesque, ce qui nous surplombe de sa taille. Voulez-vous nous parler de ce qui vous a inspiré cette comparaison, ainsi que la façon dont vous avez construit cette exposition ?
Tout a commencé avec un diptyque, que j'ai fait, qui s'appelle « Les deux infinis ». Deux énormes cadres que j'avais trouvés, j'étais manutentionnaire à la fac de Lyon 2, et ils allaient jeter des cadres, je me suis dit « non, ils sont trop beaux, ils faisaient 1m25 sur 1m25 carré, etc. » Et je trouvais la dualité un peu chouette, justement, les opposés un peu chouettes de l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc j'ai fait une œuvre infiniment petit et infiniment grand dans chacun de ces cadres. Et c'est parti de là, en fait. Et je me suis dit, bah, du coup, entouré de ça, je pourrais mettre plein d'œuvres qui parlent de soit de physique quantique, soit de systèmes planétaires ou d'amas d'étoiles, de cosmos, etc. Et de mettre en opposition, en fait, ces deux extrêmes. Et c'est toujours cool de voir que beaucoup de sujets ont justement souvent des opposés. Je ne sais pas pourquoi, les paradoxes, c'est hyper intéressant, ou les opposés, c'est ça nulle ou ça tire, j'en sais rien, ça dépend des points de vue, mais je ne sais pas, entre les deux, je suis plutôt partisan de qui se complète, moi, donc je trouve ça cool.
Quelle est votre œuvre préférée et ou celle dont vous êtes le plus fier, et pourquoi ?
Bah, je l'ai vendue, ça m'a brisé le cœur, mais c'est une œuvre qui s'appelle Onde quantique, c'est justement la dualité onde corpuscule, et j'avais fait ça chez moi un soir un peu, c'était pas une période folle, mais j'ai pas eu une forme d'inspiration, et je trouvais c'est intéressant, en tout cas j'étais vraiment fier de cette œuvre là je trouvais que ça marchait bien, que ça remplissait l'idée, et esthétiquement c'était vraiment chouette et tout. Ouais, vous pouvez l'avoir peut-être sur le site, je peux plus l'avoir en vrai, mais j'ai des repros et tout ça, mais c'est celle-là, ouais, onde quantique. Et la fierté, donc celle-là, mais aussi le fameux diptyque dont je parlais. Il y a beaucoup de travail. Ça a été vraiment hyper long. C'est un travail hyper précis. Et les concepts cachés dedans sont assez complexes. Et j'étais plutôt fier d'avoir su les mettre en place. Donc, ouais. En termes de fierté, le diptyque des infinis et l'œuvre de cœur, ce serait Onde quantique.
Quelles sont vos ambitions prochaines ? Pouvez-vous nous parler un peu de vos futurs projets ?
Justement, j'ai l'exposition à la médiathèque de Décines. Pas mal d'ateliers en cours aussi qui vont arriver. Une conférence aussi sur l'art et la science. Des expositions, une exposition à la fac de Lyon 1. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis d'autres choses qui sont en train d'arriver, mais qui ne sont pas encore officielles, entre guillemets. Donc, c'est pas signé, je préfère pas vendre la peau de l'ours, mais voilà. Mais d'autres expositions qui sont à venir, et notamment peut-être une à l'étranger aussi, donc Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Paris, et peut-être abroad, donc on verra.
C'est bien, ça nous fait un teaser.
Ouais, exactement.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez envie de dire ou de parler d'autre chose ?
Continuer d'être curieux, lever les yeux au ciel et tout ça. C'est... Il y a une citation que j'aime bien, en général je la mets en fin de discours, c'est de Werner Heisenberg. L'univers n'est pas plus étrange que ce que l'on pense, il est plus étrange que ce que l'on peut penser. Et je trouve que c'est une folie, parce que ça force vraiment à faire un pas de côté sur l'auto-évaluation du monde, et on se dit « ouais, mais c'est encore plus fou que ce que même la capacité que j'ai de pouvoir entreprendre le monde et l'appréhender ». C'est plutôt cool.
Un très beau mot de la fin. Vous venez d'écouter une interview de Paul Royot, un artiste plasticien lyonnais qui illustre des concepts scientifiques. C'était Elia Techer et Émilie Pirot pour le Labo des Savoirs. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le travail de notre invité. Je vous invite à le découvrir sur le site internet qui porte son nom et peut-être dans une de ses futures expositions.
Et c'est déjà la fin de notre deuxième épisode estival sur le thème art et sciences. C'était une émission préparée et réalisée par Elia Techer et Charlotte Baum. Vous pourrez la retrouver sur toutes vos applications de podcast préférées. Retrouvez-nous également sur labodessavoirs.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt sur les ondes.